Ici Steve Bergeron au microphone en compagnie de Fabrice Cuvillier à la mise en onde. Vous êtes de retour à Chansons de circonstance à l'antenne de CFélix, la radio pas pire pantoute. Le 25 avril 1974, à minuit 20 exactement, le mouvement des Forces armées, qui est un regroupement de militaires et d'anciens militaires portugais en désaccord avec le gouvernement, fait jouer sur les ondes de Radio Renascença, une station de radio appartenant à l'Église catholique, la chanson « Grandola Villa Moriana ». C'était le signal attendu pour amorcer ce qu'on a appelé la révolution des œillets, soit le coup d'État qui a mis fin à 41 ans de dictature au Portugal. Inutile de vous dire que cette chanson est entrée dans l'histoire, de même que son auteur-compositeur José Afonso. Si la révolution des œillets a beaucoup marqué les esprits, c'est pour plusieurs raisons. En premier, parce qu'elle s'est presque faite sans effusion de sang, on parle d'une douzaine de victimes. Ensuite, elle a été très rapide. En 13 heures, le gouvernement de Marcelo Caetano était tombé. Mais le plus important, c'est que, pour une rare fois dans l'histoire, un coup d'État militaire a eu comme objectif l'implantation d'une démocratie avec un gouvernement civil, l'instauration d'élections libres et, dans ce cas précis, la décolonisation. En fait, c'est surtout ce dernier élément qui a été la cause principale du renversement de la dictature, parce qu'à l'époque, les dernières colonies portugaises, qui se trouvaient toutes en Afrique, étaient en guerre pour obtenir leur indépendance, ce qui fait que la moitié du budget du Portugal, qui était déjà un des plus pauvres pays d'Europe, était dépensée pour financer les guerres coloniales, et ce depuis plus d'une dizaine d'années. Bref, les chefs de l'armée portugaise en ont eu assez de voir mourir un nombre croissant d'officiers et de jeunes militaires enrôlés par conscription pendant que le pays stagnait dans la dèche économique. Et pourquoi a-t-on appelé le coup d'État du 25 avril 1974 la Révolution des œillets? C'est à cause d'une restauratrice de Lisbonne du nom de Céleste Caeiro. Je souligne qu'elle est toujours vivante. Elle aura 91 ans dans 10 jours. Elle transportait des fleurs et elle s'est fait demander une cigarette par un soldat. Mais comme elle n'avait que des œillets avec elle, elle s'est mise à les distribuer aux soldats qui les ont mis dans les canons de leurs armes. Et les autres fleuristes de Lisbonne ont décidé d'imiter son geste. J'imagine qu'elle sera de nouveau interviewée à profusion ces jours-ci en prévision du 50e de la Révolution. Vous aurez deviné que le 25 avril est un jour férié au Portugal. Et comme par hasard, les deux autres dictatures qui persistaient à l'époque en Europe, dites libres, c'est-à-dire qui ne faisaient pas partie du bloc de l'Est, sont tombées dans les mois qui ont suivi. En juillet 1974, ce sont les Grecs qui ont mis fin à ce qu'on a appelé la dictature des colonels. Et en 1975, avec la mort du général Franco, l'Espagne a, à son tour, amorcé une transition démocratique qui s'est étalée sur environ 7 ans. Parmi les nombreux événements pour souligner les 50 ans de la Révolution des œillets cette semaine, il y aura notamment un spectacle au Théâtre de la Ville à Paris, réunissant des artistes de la relève en chanson portugaise qui vont s'approprier les chants de la Révolution parce qu'il y en a eu plusieurs autres. Vous devinez bien que les artistes portugais avaient commencé à protester en chanson contre la dictature bien avant 1974 et que certains avaient même dû s'exiler pour ne pas être emprisonnés. Et en début d'émission, si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé de deux chansons qui ont marqué la Révolution des œillets. En plus de « Grandola Villa Moriana » de José Afonso, il y a eu une autre qui a été diffusée à 22h55 le 24 avril pour prévenir les forces militaires de se tenir prêtes. Et quelle était cette chanson? C'est le moment où je vous ramène à notre émission du 1er avril, celle où nous avons évoqué les 50 ans de la victoire du groupe suédois ABBA au concours Eurovision de la chanson. Lors de la même soirée, la chanson dont je vous parle est celle qui représentait le Portugal lors de ce concours. Le titre est « E depois do adeus », ce qui veut dire « Et après les adieux ». C'est une chanson de rupture, une ballade qui a été choisie comme signal aux militaires justement pour qu'elle n'éveille pas les soupçons. À l'Eurovision, elle a été chantée par Paulo de Carvalho et elle a terminé dernière, ex aequo avec l'Allemagne, la Suisse et la Norvège. Disons que c'est une chanson qui se prend un peu au sérieux, assez emphatique, avec un grand orchestre et tout le Bataclan. Je suis donc parti à la recherche de versions un peu plus modestes et mon choix s'est arrêté sur la version de Contraponto, un collectif a cappella originaire de Viana do Castelo, une ville portuaire située au nord du Portugal, entre Porto et la frontière espagnole. Vous allez voir, leur version permet d'apprécier pleinement la mélodie. Quant à la chanson « Grandola Villa Moriana », celle qui a confirmé à l'armée après minuit que le coup d'État aurait bel et bien lieu, Elle a été choisie parce que José Afonso faisait partie des artistes qui protestaient régulièrement contre la dictature de Salazar et qui a même déjà fait de la prison pour ses idées politiques. Plusieurs de ses chansons avaient d'ailleurs été interdites de diffusion et d'interprétation sur scène. Grandola Villa Moriana figurait sur un album paru en 71 et enregistré au château d'Hérouville, en France. Sa particularité, c'est qu'on entend des pas dans le gravier. Certains ont cru que c'était des pas de militaires, mais José Afonso souhaitait plutôt représenter les pas des agriculteurs de Grandola, un village du sud du Portugal où il avait été invité à chanter en 1964 et où il avait été marqué par les traditions de solidarité. Certaines sources affirment que cette chanson avait été interdite, mais plusieurs autres disent que non, qu'elle était passée entre les mailles du filet de la censure et que c'est justement pour cette raison qu'il avait été choisi, encore une fois, pour ne pas vendre la mèche. Et ce qui tend à valider cette information, c'est que José Afonso l'avait interprétée un mois plus tôt lors d'un concert à Lisbonne. Grandola Villa Moriana est quand même une chanson avec un propos presque communiste, avec des vers comme « c'est le peuple qui mène », donc le signal était juste assez clair pour les soldats. Aujourd'hui, tous les Portugais connaissent José Afonso et sa chanson, qui a été reprise par la suite par des artistes très connus comme Linda de Souza et la chanteuse nationale Amélia Rodrigues. José Afonso est décédé en 1987 à l'âge de 57 ans de la sclérose latérale amyotrophique et c'est en son souvenir que je vais vous faire entendre la version originale de Grandola Villa Moriana, une version a cappella avec cœur d'homme, mais d'abord « E depois do adeus » par Cotra Ponto.
Paz que perdi, minha dor. Prendo la Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
Grândola Vila Morena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade,
Grândola a tua vontade,
jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Ici, c'est Bergeron, vous êtes de retour à Chansons de circonstance. Nous allons terminer cette émission avec la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, une initiative de l'UNESCO lancée en 1995 et qui a lieu tous les 23 avril, une date choisie parce que c'est notamment celle du décès de William Shakespeare et de Miguel de Cervantes. En fait, ce sont les Espagnols qui ont, les premiers, tenu la fête du livre le 23 avril 1930 à la mémoire de Cervantes. Avec cette journée, l'UNESCO, qui, je le rappelle, est la branche culturelle des Nations Unies, souhaite promouvoir la lecture, l'écriture, la publication et les droits d'auteur. Depuis 2001, cette fête s'accompagne aussi de la désignation d'une capitale mondiale du livre pour l'année qui commence. Après Accra, au Ghana, dont le mandat se termine donc demain, ce sera au tour de Strasbourg de porter le titre au cours des 12 prochains mois. Et la ville de 2025 est déjà choisie. Il s'agit de Rio de Janeiro. Et peut-être vous souvenez-vous que Montréal l'avait été en 2005. Une ville choisie comme capitale mondiale du livre s'engage pour au moins 10 ans à promouvoir les livres et la lecture sous toutes ses formes et à tous les âges de la vie pour lutter contre l'analphabétisme et les inégalités. Les villes désignées doivent répondre à un double objectif, aiguiser le sens critique tout en accentuant le dialogue entre les cultures et déployer un ensemble d'événements rassembleurs. Le thème choisi par Strasbourg pour son mandat est « Lire le monde » et un des buts qu'elle s'est donné, c'est de contribuer à faire du livre le support privilégié pour transmettre tant les préoccupations environnementales de notre temps que les savoirs scientifiques associés. L'UNESCO rappelle aussi qu'elle a lancé en 2022 la décennie internationale des langues autochtones et s'est engagée à soutenir la publication de livres dans des langues autochtones, mais aussi régionales. En travaillant avec des maisons d'édition du monde entier, elle souhaite faire publier le livre « Ce qui nous rend humains » de Victor Santos et Anna Forlati, un ouvrage illustré pour enfants qui célèbre la richesse linguistique et culturelle en 14 langues, comme le mapuche, le galicien ou le marathi. L'UNESCO soutient également le secteur du livre en Afrique en particulier la littérature jeunesse, pour accompagner la transmission de l'histoire de l'esclavage et de ses résonances contemporaines, elle a lancé en 2022 la série Bintou et Issa en partenariat avec la maison d'édition Langage du Sud pour sensibiliser dès le plus jeune âge à ces sujets. Maintenant, faisons notre part pour souligner à notre façon la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Commençons par une chanson de Tristan Malavoie, intitulée « Les écrivains » et extraite de son livre-disque « L'école des vertiges » paru en 2018 à la fois chez Audiogramme et chez L'Hexagone. Si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, c'est très intéressant à découvrir sur le plan tant littéraire que musical, avec entre autres des collaborations d'Émilie Bibeau et Caracol. Ensuite, ce sera au tour de Juliette de nous chanter tout ce que les livres lui font vivre avec sa chanson « À voix basse », extraite de l'album « Bijoux et babioles » paru en 2008. Et pour terminer, vous pourrez entendre une chanson assez méconnue de Gilles Vigneault intitulée « Le livre ». Elle provient de son quatrième micro-sillon paru en 1965 et enregistré en concert à la Comédie canadienne, aujourd'hui le Théâtre du Nouveau Monde. Sauf que j'ai triché, je suis plutôt allé chercher la version par la chanteuse française qui a le plus interprété Vigneault en France, j'ai nommé Catherine Sauvage. Et on s'aperçoit en écoutant les paroles que le livre dont il est question dans cette chanson, c'est la nature. J'ai donc trouvé que c'était une belle façon de fermer la boucle de cette émission en réunissant le jour de la Terre et la Journée mondiale du livre dans la même chanson. C'est ainsi que Chanson de circonstance va se terminer cette semaine. Un immense merci de votre présence et de votre écoute. Un immense merci aussi à Fabrice Cuvillier pour la mise en onde. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en reprise le vendredi à midi en espérant que l'électronique sera de notre côté cette fois-ci. Sinon, il y a toujours le balado au cfélix.qc.ca. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chansons de circonstance et je vous laisse en compagnie de Catherine Sauvage, Juliette et Tristan Malavoie.
Ils allument un soleil ou font tomber la nuit. Ils remontent le temps quand ça leur dit. Solitude des îles, cacophonie des villes. Rien ne leur suffit. Ils ont toujours un pied sur le quai des départs. Lisent moins bien le quotidien que les lointains transsibériens. Ils rentrent parfois chargés d'or, mais le plus souvent sans rien dans les mains. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses. Ils ne font rien comme tout le monde, se perdent sur une map monde. Ils ont beau être forts en thème, ils ont besoin pour dire je t'aime de 300 pages bien tassées, mais résument l'humanité en un poème. Ils n'ont pas peur de nous montrer nos quatre vérités, les chimères de nos projets, le pourquoi de nos fuites en avant. S'ils nous racontent des histoires, c'est pour mieux nous placer devant le miroir. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient leur vie pour dire beau. Et quand ils nous conduisent au bout de la nuit, laissent une étoile accrochée bien haut. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses. Thank you.
un étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent d'un jeu sale et chagrin. Ils me choquent, m'interloquent et me parrainent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. Depuis, dès que mes yeux se posent entre les lignes, entre les pages, mêmes effets, mêmes causes, je fais surgir les personnages. Malheur, je lis beaucoup et c'est risqué, je le sais bien. Mes hôtes peuvent aussi être fous, ou dangereux, ou assassins. J'ai fui devant des créatures, repoussé quelques décadents, échappé de peu aux morsures d'un vieux roumain extravagant. J'évite de lire tant qu'à faire les dépravés, les malades, les histoires de serial killers, les œuvres du marquis de Sade. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros, des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent linges sales et chagrins. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. À voix basse, ils s'effacent quand je ferme le bouquin. N'importe quoi qui est imprimé me saute aux yeux littéralement, et l'histoire devient insensée car je ne lis pas que des romans. Ainsi j'ai subi les caprices d'un Apollon de Prospectus. J'ai même rencontré les trois Suisses et le caissier des emprunts russes. Un article du code pénal poilu comme une moisissure s'est comporté comme un vandale se soulageant dans mes chaussures. Ce démon qui vient de filer, ça ne serait pas, je me le demande, un genre de verbe irrégulier sorti d'une grammaire allemande. Cesser de lire pour qu'il cesse de me hanter, brûler mes livres pour finir dans un glorieux auto da fé. Mais j'aime trop comme un opium ce rendez-vous de chaque nuit, ces mots qui deviennent des hommes, loin de ce monde qui m'ennuie. Malgré les monstres et les bizarres, je me suis fait quelques amis. Alors j'ouvre une page au hasard d'un livre usé que je relis. Puis j'attends, je dois l'avouer, au coin d'un chapitre émouvant, que vienne d'un prince ou d'une fée, un amour comme dans les romans, comme dans les romans. À voix basse, qu'il me fasse oublier tous mes chagrins, qu'il susurre tout murmure des toujours.
Que j'ai lu, je n'en sais point l'auteur. Le livre que j'ai lu n'est pas chez le libraire. Je n'en sais point le titre et fus mauvais lecteur. Et si vous le trouvez, il faut parfois se taire. Ne ferme pas trop tôt le livre, les fleurs n'ont pas fini de vivre. À la première page, un chemin dans le bois. À la deuxième page, une source est cachée. À la troisième page, est un indien qui boit. La quatrième page, elle est encore tachée. À la cinquième page, un canot sur la mer. À la sixième page, on l'attend à la côte. Au bas de la septième, on dit que la mer perd. À la page d'après, la mer est aussi haute. Ne ferme pas trop tôt le livre, les fleurs n'ont pas fini de vivre. Page 20, page 30, un vol de corbijoux traverse tout le livre et s'abat sur les plaines pour manger des bleuets qui poussent n'importe où. Je n'en ai pas mangé depuis 500 semaines. À la centième page, il pleut sur l'île au foin. À la suivante, un homme en marche dans la neige. Pour changer de saison, il marche un peu plus loin, mais la trace du loup est perdue et le piège. Ne ferme pas trop tôt le livre, les fleurs n'ont pas fini de vivre. Page 1000 et 100 000, on est dans du bois vert. Au matin de mon conte, à son premier chapitre, je m'en vais te laisser avec le livre ouvert, le cœur et l'œil au large et le front sur ta vitre. Ne ferme pas trop tôt le livre.